Bonjour et bienvenue à l'écoute du programme en français de Radio Prague. Un programme comme toutes les fins de semaine fait de culture, de votre courrier et de littérature. Et aujourd'hui, l'émission culturelle sera consacrée à une exposition à Prague, Ostrava et Brno. Il est question de murs, d'enceintes qui, à l'heure de la mondialisation, séparent des populations dans le monde. Des murs à la fois concrets, érigés entre des êtres, mais aussi des murs qui subsistent dans l'esprit des gens. Anna Kubiszta s'est entretenue avec une chercheuse française à l'origine de l'exposition.
Culture sans frontières.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission culturelle. Une émission culturelle où nous accueillons aujourd'hui Alexandra Novoselov, qui est docteur en sciences politiques, chercheur au centre Thucydide de l'université de Paris 2 et qui est à Prague en fait pour présenter une exposition qui s'appelle « Des murs entre les hommes » qui se déroule à l'Institut français de Prague, à la Galerie 35 et qui a été inaugurée dans le cadre du festival de films sur les droits de l'homme One World, dont c'est la 13e édition cette année. Alors, Alexandra Novoselov, vous êtes ici donc à l'occasion d'un débat autour de ces murs qui séparent les hommes à travers le monde. Alors déjà, tout simplement, est-ce que vous pourriez nous rappeler comment est né ce projet que vous avez monté à deux, ce reportage photographique avec votre collègue Franck Ness?
Alors, comment est née l'idée? C'est qu'on a été faire un voyage au Sahara occidental il y a maintenant plus de 10 ans et qu'on a vu ce mur de 2000 km de long à travers le désert. Et quand on a réfléchi à cette problématique, on a découvert qu'il y avait encore d'autres murs et que ça contredisait d'une certaine manière tout le discours qu'on ambiant sur l'ouverture des frontières et qui se développe depuis la mondialisation, depuis la chute du mur de Berlin. Et en réalité, aujourd'hui, on a plus de murs construits de par le monde qu'avant la chute du mur de Berlin. Donc on a voulu expliquer ce paradoxe, ce phénomène paradoxal, et qui s'est notamment développé après les attentats du 11 septembre.
Vous parliez de la chute du mur de Berlin, évidemment. Pour la République tchèque où nous trouvons, c'est un moment fondateur. On a même parlé à l'époque de la fin de l'histoire avec la fin du bloc soviétique et ce mur qui séparait l'Ouest et l'Est. Ces murs qui se bâtissent dans le monde, quelles sont les raisons pour lesquelles ils sont construits et qui sépare-t-il? Est-ce que vous pourriez faire une petite typologie finalement de ces murs? Parce que je suppose qu'ils ne sont pas tous similaires.
Il y a d'abord des murs qui, grosso modo, ont été érigés après la Seconde Guerre mondiale, et ça c'est un nouveau phénomène, c'est un peu les murs du XXe siècle. Chaque époque a eu son mur, mais c'était des murs qui avaient plutôt une fonction défensive au sens militaire du terme. Bon, la muraille de Chine est un exemple tout à fait typique, le mur d'Adrien, le mur de l'Atlantique pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, un nouveau type de mur est apparu, et c'est des murs qui séparent une même population sur un même territoire, et qui souvent ont été érigés à la suite de guerres civiles, en réalité. C'est le cas de la Corée, séparée par une bande de 4 km de long, qu'on appelle la DMZ, la zone démilitarisée, depuis l'accord de Panmunjom en 1953. C'est le cas de Chypre, c'est le cas du Sahara occidental, d'une certaine manière également des murs, des lignes de la paix, comme on les appelle à Belfast et à Londonderry, donc en Irlande du Nord. À partir en fait des attentats du 11 septembre, donc à partir du 21e siècle, un nouveau type de mur apparaît, et c'est des murs qui sont là pour combattre les menaces globales, type terrorisme, immigration, qui peuvent être non seulement des murs qui séparent une même population sur un même territoire, mais qui peuvent aussi être des murs qui se construisent sur des frontières déjà établies Et donc, c'est un phénomène de militarisation et de des frontières qu'on emmure. Et ça, c'est le cas sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique, autour des enclaves espagnoles de Ceuta et de Melilla. Le mur israélien est aussi, dans ce cas, est un peu à cheval entre les deux, puisque l'objectif est aussi, d'ailleurs, de créer une frontière à ce niveau-là. C'est le mur qui s'est construit entre l'Inde et le Bangladesh, et c'est le mur que l'Arabie Saoudite a décidé de construire à ses frontières avec l'Irak et le Yémen.
Vous parliez justement de Ceuta et Melilla et de ce paradoxe des murs, alors qu'on dit que la société s'ouvre aujourd'hui et que la mondialisation, d'une certaine manière, permet la circulation. Alors Ceuta et Melilla, c'est finalement une des illustrations de ce paradoxe. L'espace Schengen a fait tomber toutes les frontières, enfin l'Europe a fait, les pays européens ont fait tomber toutes les frontières entre eux, mais Ceuta et Melilla, c'est la porte d'entrée de sortie, la porte qui ferme l'entrée à cet espace-là qui en fait est ouvert à l'intérieur.
Alors quand je fais des conférences à l'étranger, on parle souvent du mur de Schengen, où effectivement les frontières à l'intérieur de cet espace ont été abolies, mais où les frontières en bordure de cet espace sont en réalité en train d'être renforcées. Le cas de Ceuta et Melilla a été le premier cas parce que c'est vrai que ce sont des petites villes, des petites enclaves sur le continent africain et c'était les portes d'entrée des immigrants de tout un continent. Donc pour enrayer ce phénomène-là et pour stabiliser ces villes dont la démographie devenait de moins en moins européenne et de plus en plus maghrébine, puisqu'il y a une forte immigration maghrébine, l'Espagne a décidé de renforcer ses barrières, mais la Grèce vient justement, pour enrayer ce phénomène, de décider de la construction d'une barrière électronique à sa frontière avec la Turquie. La frontière de la Roumanie, la frontière extérieure de la Roumanie, est aussi en train de se renforcer. Donc vous avez aussi ce phénomène parce que pour le citoyen européen moyen, je dirais, le phénomène de l'immigration fait peur, qu'il y a un manque d'explication de nos autorités vis-à-vis de ce phénomène-là, qui en réalité, à l'échelle de l'Europe, est relativement marginal, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui vont prendre nos emplois, etc. Et en même temps, il y a une absence totale de politique commune de l'immigration. Donc tout cela mis bout à bout fait que des États pour prendre des mesures qui se voient, pour prendre des mesures rapides parce que les citoyens veulent que leur gouvernement règle ces problèmes rapidement, ces États construisent ou renforcent leurs frontières.
Ce que vous dites en fait en substance, c'est que finalement ça correspond, cette construction de murs, à une demande des gens, pas nécessairement à une volonté des politiques qui finalement suivrait une demande de la population.
Oui, tout à fait. Ça, il faut pas croire que les politiques prennent des décisions comme ça sans ancrage dans la volonté des populations. C'est le cas en Israël. C'était un mouvement citoyen qui a promu l'idée de mur à l'origine, idée qui était refusée par les partis au pouvoir, le Likoud, et donc la droite israélienne et la gauche israélienne. Donc il y a eu un mouvement citoyen, il y a eu un traumatisme incroyable avec cette vague d'attentats qui à l'échelle du pays, enfin qui a fait 1000 morts en Israël, qui à l'échelle de la France par exemple, et qui vaudrait à 9000 morts. Et donc les citoyens, ces mouvements, ces minorités actives en quelque sorte, ont convaincu d'abord la gauche d'ailleurs, hein, d'abord la gauche israélienne, et ensuite la droite avec Ariel Sharon qui est arrivé au pouvoir à ce moment-là, et ensuite même les colons qui à l'origine étaient absolument contre la construction d'un mur parce qu'ils sont contre le fait de construire une frontière en Israël qui va à l'encontre de leur projet de grand Israël. Et donc voyez, donc mais il y a eu vraiment un mouvement de fond, et aujourd'hui en Israël personne ne remet en cause l'existence du mur. 98% des Israéliens considèrent aujourd'hui qu'il a eu un effet bénéfique, puisqu'il a, de fait, même si les raisons sont autres, arrêté les attentats suicides. Et les seules personnes en Israël qui critiquent le mur critiquent en réalité son tracé, qui aujourd'hui ne passe pas sur la ligne verte, qui est la ligne d'armistice, mais qui contourne les grands blocs de colonies. Et c'est d'ailleurs comme ça que la droite israélienne s'est convaincue de construire le mur, c'était en détournant le tracé.
Tous ces murs dont on parle, ce sont évidemment des grands murs à l'échelle d'État ou de supra-État, puisque pour l'Europe, c'est plus un bloc. Il y a également des murs plus petits à l'échelle de ville, par exemple. Alors, vous parliez bon de Belfast, évidemment. En République tchèque, on a connu des murs aussi, hein, Ústí nad Labem, qui avait été construit dans les années 90 pour séparer la population tchèque de la population rome. Plutôt que de trouver une solution finalement au problème, puisque ces murs sont l'expression d'un problème ou d'un malaise, finalement on a l'impression que ces murs conservent en fait, comme dans du formol en fait, ces problèmes existants. Plutôt que de chercher une solution, est-ce que vous êtes optimiste, disons, sur l'avenir, par exemple, de ces murs? Est-ce qu'ils vont tomber un jour?
Alors, ce qu'on dit dans le livre, c'est justement que c'est en réalité qu'ils accentuent les problèmes, parce que ils deviennent une partie au problème, et que quand on ne règle pas un problème, en général, il s'amplifie. La conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que ils sont sur le long terme un piège et une contre-mesure en réalité à tout ça. Alors donc on peut être pessimiste sur le court terme, parce que c'est vrai que ces murs créent en quelque sorte une vision un peu binaire des choses, alors que il y a les bons qui sont du côté de ceux qui ont construit ces murs, qui essayent de se protéger, qui ont leur vie en général assez confortable, etc. Puis il y a les mauvais, ceux qui sont de l'autre côté, qu'on ne veut plus voir. Donc on peut être pessimiste sur le court terme, mais à long terme, quand on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire, on s'aperçoit que tous les murs sont tombés à un moment donné, parce que les gens, tout simplement, n'aiment pas être enfermés, et que à un moment donné, trop c'est trop, et que voilà, on le voit aujourd'hui dans toutes les révolutions. Au Moyen-Orient, on s'aperçoit qu'il y a que le désir de liberté est plus fort que tout, et que les murs de la peur, les murs dans les têtes, se sont totalement effondrés. Donc c'est vrai que voilà, ça prend du temps, parce que c'est difficile de dépasser ses rancœurs, de dépasser sa nostalgie d'un passé, de cicatriser tout ça. Mais je crois que sur le long terme, ou sur le très long terme, on peut être optimiste. Mais il faut être patient.
Alexandra Novoselov, je rappelle donc que cette exposition des murs entre les hommes, c'est à la Galerie 35, à l'Institut français de Prague, et également à Brno et à Ostrava. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Suite du programme en français de Radio Prague, vous le savez, comme tous les samedis, c'est de la culture. Vous venez d'entendre la rubrique présentée par Anna Kubishta et l'interview à propos de ces expositions qui concernent les murs dans le monde. Et on passe maintenant au courrier avec Guillaume Narguet, à votre courrier.
Courrier des auditeurs.
Dobliden, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à l'écoute de l'une de vos rubriques préférées. Malgré la disparition de la diffusion sur ondes courtes, vous êtes encore relativement nombreux à avoir conservé la bonne habitude de nous écrire, et surtout à être restés fidèles à nos émissions que vous suivez désormais sur Internet ou grâce au satellite. Nous commençons cette émission avec un courriel de Monsieur Stefano Citerio de Bergame en Italie. « Bonjour, nous écrit-il, je suis italien et je suis un fidèle auditeur de Radio Prague depuis 1988. J'ai vécu tous les événements qui ont bouleversé la République tchèque car j'aime votre pays, j'étudie votre langue et je suis allé plusieurs fois à Prague. C'est la première fois que j'écris à votre rédaction car auparavant j'écrivais à la rédaction espagnole que j'ai aussi visitée l'année dernière mais depuis longtemps ils ne répondent pas à mes lettres. J'espère qu'il ne s'agit pas d'une politique précise de votre radio ou contre les auditeurs italiens ou bien contre ma personne. Je parle et écris 7 langues, j'ai participé à beaucoup de concours, comme vous voyez, ma fidélité à Radio Prague a été et sera toujours sincère et stable. Je vous remercie pour votre attention, j'espère pouvoir écouter encore pendant longtemps vos programmes sur Internet, car ce n'est plus possible de le faire sur les ondes courtes. Je vous envoie mes compliments pour la qualité de vos programmes que je télécharge régulièrement et mes salutations les plus sincères. Fin de citation. Nous regrettons que la rédaction espagnole n'ait pas donné suite au message de Stefano, mais d'un autre côté, notre rédaction française se réjouit, elle, d'avoir un nouvel auditeur et un nouveau correspondant. Certains d'entre vous se plaignent d'ailleurs parfois de ne pas recevoir de réponse ou de ne pas recevoir notre courrier. C'est le cas, par exemple, de notre ami Hervé Briand de Talence, en Gironde. Je le cite. « Bonjour à toutes et à tous, chers amis de la rédaction française de Radio Prague. Je voudrais revenir sur le courriel et le rapport d'écoute que je vous ai transmis récemment concernant l'émission du dimanche et qui est restée sans réponse. N'ayant pas reçu de confirmation pour ce rapport, peut-être ne vous est-il pas parvenu. Cette émission du dimanche consacrée à la musique est une bonne formule, mais elle semble également être dictée par un souci économique, puisque comme le samedi, nous n'avons plus les informations qui étaient diffusées en direct. Récemment, nous avons découvert avec surprise la voix et la musique étonnante de Dagmar Andratova von Kova, surtout dans la mélodie pleine de douceur et de nostalgie qui est passée à la 18e minute de l'émission. Un pur régal. Merci par avance pour la QSL confirmant ce rapport d'écoute. Très sincère, amitié tchécophile. Alors, pour répondre à Hervé, précisons tout d'abord qu'une carte QSL lui a bien été envoyée et nous espérons qu'il l'a reçue. Concernant l'émission musicale du dimanche, il s'agit effectivement d'une décision essentiellement économique. Le bulletin d'information n'est donc plus diffusé en direct. Il reste cependant actualisé sur notre site internet pendant toute la durée du week-end. Et pour remercier Hervé de son message, voici de nouveau Dagmar Andratova Vojnkova.
Smutně křidélka zalamuješ. A žaluješ. A běduješ.
Autre auditeur qui apprécie cette nouvelle rubrique musicale du dimanche, Christian Guibaudot de Tende sur la Côte d'Azur. Christian nous a envoyé le message suivant. Voici bientôt 2 mois que Radio Prague a quitté les ondes courtes et je prends maintenant mes marques. Depuis plusieurs années, je vous écoute essentiellement sur Internet, mais de temps en temps, je me branchais sur les ondes courtes. Maintenant, je partage mon écoute entre Internet et satellite. Bien sûr, les auditeurs gagnent en qualité d'écoute et le maintien de Radio Prague est bien évidemment la priorité. J'apprécie la nouvelle programmation, en particulier la musique le dimanche, quand je rentre du travail, car, eh oui, je travaille souvent le dimanche, vers 16h, je me connecte à mon ordinateur. Et j'écoute votre émission musicale, c'est un plaisir pour se détendre. Fin 2010, à Monaco, il y a eu la publication du premier album de Tintin et Milou en langue monégasque. Une édition limitée à 3000 exemplaires et bien difficile à comprendre, j'ai donc une question. Tintin et Milou sont traduits en tchèque, mais comment s'appellent nos 2 héros chez vous et depuis quand ces traductions existent-elles ? Célèbres dans le monde entier, les aventures de Tintin, Tintinova Dobrodružství, sont effectivement traduites en tchèque. 19 albums précisément ont été traduits, dont les 2 premiers ont été le Crabe aux pinces d'or, Crab se Zlatými klepety, et le Secret de la licorne, Tajemství jednorožce, en 1994. Quant au nom de nos 2 héros, Tintin reste Tintin en tchèque, prononcé toutefois Tintin, tandis que Milou devient lui Filouta, dans le sens de petit filou, espiègle, vif, malicieux, rusé.
Merci à Guillaume Narguet, et après votre courrier, on passe à la littérature. Dans la rubrique littéraire cette semaine, Václav Richter profite de la publication des œuvres de Milan Kundera dans la collection de la Pléiade chez Gallimard, pour se pencher sur les rapports complexes entre le célèbre écrivain et les Tchèques.
Thank you. rencontre littéraire.
Milan Kundera est entré dans la Pléiade. L'œuvre de ce romancier d'origine tchèque qui est aujourd'hui écrivain de langue française a été publiée en 2 volumes dans cette prestigieuse collection des éditions Gallimard. Tous les prix et fauteuils pâlissent devant un tel hommage dans la mythique collection de classiques dont s'enorgueille Gallimard. Kundera canonisé côtoiera désormais Proust et Balzac, Rabelais et Molière, Goethe et Conrad, écrit Mohamed Aissaoui dans Le Figaro. Milan Kundera, qui, espérons-le, n'a pas encore dit son dernier mot, est le seul écrivain vivant à se trouver actuellement dans cette illustre compagnie. Les 2 volumes de la collection de la Pléiade ne contiennent pas les œuvres complètes de Milan Kundera, mais on ne peut pas dire non plus qu'il s'agit d'œuvres choisies. Il n'y a, selon une information de l'éditeur, que les œuvres que l'auteur juge dignes d'être retenues, donc les écrits ayant résisté au jugement sévère d'un homme qui a décidé de balayer tout ce qu'il considérait comme imparfait ou problématique. De ce point de vue, les œuvres publiées dans la Pléiade forment un tout, un ensemble complet. On sait que Milan Kundera est un maniaque de la perfection, qu'il retouche souvent ses œuvres, qu'il surveille étroitement leurs traductions en langues étrangères. Si cela était possible, il se chargerait sans doute lui-même de toutes ses traductions, mais comme cela dépasse infiniment les capacités intellectuelles d'un être humain, il corrige au moins le travail des traducteurs. Il a fait retraduire en français le roman La Plaisanterie, son premier livre paru en France, parce qu'il estimait que le style fleuri de la première traduction ne correspondait pas à la sobriété du texte original. Les textes réunis dans la collection de la Pléiade, textes souvent revus et retouchés par l'auteur, peuvent être donc considérés comme définitifs et référentiels, comme si l'écrivain voulait laisser à la postérité un monument littéraire irréprochable, un monument de marbre poli. Les Tchèques, eux, pourraient s'enorgueillir des succès de leur ancien compatriote. Le critique et historien de littérature, Aleš Haman, constate.
C'est un auteur mondialement connu et qui jouit d'une bonne réputation en France. Et c'est aussi un auteur qui intéresse les lecteurs contemporains si vous prenez en considération les traductions de ses œuvres qui paraissent aussi bien en Chine comme en Europe. Vous devez constater que Kundera est toujours un écrivain vivant.
Écrivain vivant, certes, écrivain probablement le plus célèbre jamais issu du peuple tchèque, Kundera ne cesse d'attirer malgré la distance l'attention de ses anciens compatriotes. Les critiques tchèques, dont Aleš Haman, suivent aussi l'accueil qui est réservé à l'œuvre de Milan Kundera par les Français.
Je pense qu'en général, ils apprécient son œuvre. Ainsi, par exemple, Guy Scarpetta, dans son livre sur le roman, cite Kundera dans 2 chapitres. Bien sûr, en France, comme chez nous, il y a des auteurs ou des critiques qui lui reprochent, par exemple, que son français n'est pas, je dirais, aussi riche que la langue des Français d'origine.
La critique tchèque, elle aussi, apprécie en général l'œuvre de Milan Kundera et sa contribution à la littérature mondiale. Les voix qui remettent en cause les qualités littéraires de cette œuvre existent, mais restent isolées. Aleš Haman n'est pas le seul à voir dans l'écrivain un novateur, un réformateur du roman.
Kundera a relâché la composition du roman. Il a transformé le roman classique et balzacien, roman qui raconte une histoire, en roman essai, roman réflexion, parce qu'il est orienté vers la vision philosophique du monde. Il dit même que le roman ne crée pas l'action ou le récit, mais qu'il pose la question de la situation existentielle de l'homme.
Existenciální situace člověka. L'attitude des Tchèques vis-à-vis de Milan Kundera est pourtant mitigée et influencée par beaucoup d'aspects subjectifs. Après la chute du communisme en 1989, on s'attendait à ce que Kundera revienne, renoue les liens avec son pays, mais l'écrivain n'a pas répondu à ses attentes. Ce qui avait été perçu d'abord comme un exil est devenu pour lui un chemin vers la liberté artistique et la lucidité créatrice dont il avait besoin pour édifier son œuvre. Mais cela n'a pas toujours été compris dans sa patrie. Il y a eu des moments où la presse tchèque s'est acharnée à disséquer l'œuvre et la vie de cet homme qui semblait chercher à couper le cordon ombilical le reliant avec son pays. Alej Haman s'en rend compte.
Il est vrai qu'en Tchéquie, la réaction critique à l'œuvre de Milan Kundera est plus acérée qu'en France. D'autre part, je pense que c'était plutôt des excès temporaires, pour ainsi dire, et qu'aujourd'hui, Kundera est reçu beaucoup plus calmement.
Il faut se faire à l'idée que Kundera ne fait pas partie de cette catégorie des Tchèques ayant réussi dans le monde, dont on parle dans la presse et qui profitent de toutes les occasions pour se déclarer fiers de leurs origines. Il ne s'est jamais laissé aller à ce genre des lieux communs, il ne fait presque rien pour obtenir les faveurs de la presse et du public de sa patrie. Il se considère comme un écrivain français, elle le dit. Le public tchèque se sent donc délaissé par cette célébrité internationale et d'aucuns y voient même un signe d'arrogance. Les lecteurs tchèques ont cependant encore une chose plus grave à reprocher à cet auteur lu et traduit dans le monde entier. Ils ne peuvent lire que les livres que Milan Kundera a écrits en tchèque. Paradoxalement, ils sont peut-être les seuls au monde à ne pas avoir la possibilité de lire les derniers livres que le romancier a écrits en français, car les traductions tchèques de ses œuvres n'existent pas. L'écrivain s'oppose à la traduction de ses livres français dans sa langue maternelle. Perfectionniste, il refuse de permettre à un traducteur de s'immiscer entre le texte français et sa version tchèque. Il se considère comme le seul traducteur tchèque possible de ses derniers livres. D'ailleurs, s'il les traduisait, il ne s'agirait très probablement pas d'une simple traduction, mais d'une espèce de réécriture, de récréation du texte original. Pour se lancer dans une telle entreprise, il devrait renoncer cependant à d'autres travaux littéraires et même à des romans qu'il lui reste encore à écrire. Vu son âge, il a 82 ans, son temps est limité. Face à ce dilemme, le romancier choisit donc d'écrire encore ses dernières œuvres et préfère la création à la traduction. Les lecteurs tchèques, s'ils veulent lire les œuvres françaises de Milan Kundera, n'ont donc plus qu'à apprendre le français ou, à la rigueur, d'autres langues dans lesquelles ses œuvres ont été traduites. Il y en a qui le comprennent, il y en a qui le considèrent comme injuste et s'insurgent contre ce verdict sans appel. Une traduction pirate de son roman, L'identité, a d'ailleurs été mise à la disposition des lecteurs tchèques sur Internet. Cette situation qui attriste le lecteur peut être cependant interprétée aussi d'une autre façon. Elle démontre à quel point la langue maternelle est importante pour l'auteur des romans La Lanterre, L'identité et L'ignorance. Et bien qu'il ait choisi de s'exprimer en français, bien qu'il ait dû accepter la traduction de ses livres dans d'autres langues, il reste extrêmement sensible à la langue tchèque, comme s'il gardait un rapport étroit, possessif et jaloux vis-à-vis du tchèque et ne voulait céder à personne le droit de traduire, c'est-à-dire de faire renaître ses textes dans la langue de sa mère.
C'était Václav Richter et sa rubrique littéraire consacrée cette semaine à l'écrivain tchèque devenu français, Milan Kundera. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité et à très bientôt sur Radio Prague.
Radio Praga continúa ahora sus emisiones en español.